débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Igemantard Tomté. Le débat.
Merci à tous de votre fidélité au débat BBC Afrique, Africa Radio. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre magazine, au Bénin, le parrainage individuel et anonyme, c'est la dernière proposition faite par la Commission électorale nationale autonome. Pour la présidentielle 2021, les élus maires et députés pourraient-ils donc choisir quel candidat soutenir à la prochaine présidentielle béninoise et ce, indépendamment de leur bord politique ? Telle est la question. Cela peut-il garantir une élection inclusive dans un contexte où l'Assemblée nationale n'est composée que de représentants de la mouvance et où l'opposition ne compte que 6 maires sur les 77 élus en 2019 ? Nous ferons le débat. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, Henri Conan Bédié et Affine Guessan ont appelé au boycott de la présidentielle 2020. Ils ont demandé à leurs militants d'empêcher la tenue de l'élection par tous les moyens légaux. Les deux candidats de l'opposition qui ont refusé de retirer les spécimens des bulletins mis à leur disposition par la CEI, qu'ils ne reconnaissent plus d'ailleurs. Mais ni Henri Conan Bédié, le candidat du PDCI, ni Affine Guessan du FPI n'ont retiré leur candidature. Stratégie politique prudente ou plutôt risquée face à un camp Ouattara qui déploie son appareil de campagne et mise sur son bilan pour conquérir l'électorat. Nous aurons les analyses et les commentaires dans cette émission. Et puis au Nigeria, nous parlerons de ces manifestants qui ont fait reculer le pouvoir. Après plus d'une semaine de manifestations, la rue ne décolère pas malgré la décision du président Muhammadu Buhari de dissoudre cette unité policière anti-vol accusée d'exactions contre la population. Les Nigériens demande une loi pour punir les policiers coupables de maltraitance sur la population, une indemnisation pour les familles des personnes tuées et un meilleur financement de la police. Jusqu'où ira ce mouvement de contestation soutenu par des stars nigérianes et internationales ? Ce sera le troisième sujet de ce débat.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Le débat qui a comme grand témoin aujourd'hui Orden Aladati, député à l'Assemblée nationale du Bénin, président de la Commission des lois. Monsieur le président de la Commission, bonjour.
Bonjour, chère madame. Bonjour, les auditeurs de BBC.
Merci d'être avec nous sur ce débat. Nous avons également depuis Abidjan notre confrère César Etou. Il est directeur de publication du quotidien La Voix Originale. César, merci de nous rejoindre.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de BBC Afrique.
Et puis depuis Yaoundé, nous avons cet autre confrère que vous connaissez sûrement si vous êtes un habitué du débat, Denis Kwebo, journaliste, analyste politique camerounais. Denis, bonjour et merci de répondre encore à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie. Heureusement, aujourd'hui, je réponds depuis Douala, la capitale économique du Cameroun, et non de Yaoundé.
Vous êtes plutôt à Douala. Une petite présentation de notre grand témoin pour mieux le connaître, Monsieur Orden Aladati. Vous êtes juriste de formation, investi en politique depuis 2014 avec le Parti Alternative Citoyenne qui a fusionné avec d'autres forces politiques pour créer depuis le 1er décembre 2018 le parti appelé Union Progressiste, un parti soutien du président Patrice Talon. Vous êtes actuellement député à l'Assemblée nationale et président de la Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme, membre du bureau politique et membre de la direction exécutive nationale du parti depuis 2018. Mais dans une vie antérieure, si on peut le dire comme ça, vous étiez membre actif de la société civile au Bénin et ce pendant près de 30 ans. C'est cela, monsieur Aladati.
C'est bien cela, chère madame. Ouais, voilà, vous êtes renseigné.
Alors, le débat sur le parrainage des candidats au Bénin n'est pas nouveau, mais cette proposition de l'organe chargé d'organiser les élections est l'élément qui ravive la polémique. Alors, pour un petit rappel, depuis la révision de la Constitution en novembre 2019, la loi stipule que nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10% de l'ensemble des députés et des maires. Emmanuel Tiando, le président de la Commission électorale nationale autonome, la CENA, donc, a déclaré cette semaine que le parrainage se fera de façon individuelle à travers un formulaire nominatif qui sera distribué aux 77 maires et 83 députés. Et il a ajouté que la CENA ne publiera pas la liste des députés et maires ayant parrainé un candidat. Donc, c'est un parrainage sous anonymat. Orden Aladati, en tant que président de la Commission des lois, vous vous retrouvez dans cette interprétation que la Sénat fait de cet article sur le parrainage ?
Oh oui, parfaitement. Je pense que la loi a été très claire que le parrainage est individuel parce que le candidat à la présidence de la République est parrainé par des élus. On a précisé des élus, députés ou maires. Donc,
mais l'aspect anonymat, l'aspect de l'anonymat, c'est la nouveauté justement dans cette interprétation de la Sénat. Est-ce que vous y retrouvez l'esprit de la loi que vous aviez votée?
Tout à fait, parce que la Sénat, dans son essence, n'est pas chargée d'étudier les dossiers de candidature. Dans le cadre des élections présidentielles, il revient à la Sénat de collecter les dossiers, de recevoir les candidatures et de les acheminer à la Cour constitutionnelle. Et dans tout ça, c'est la Cour constitutionnelle qui fait le tri et qui voit si tel ou tel candidat respecte les conditionnalités de la loi. Donc de ce point de vue, que la Sénat dise que ce soit de l'anonymat ou pas, la Sénat n'était pas quand même habilité à venir fouiller dans les dossiers et aller dire que tel remplit tel ou condition, c'est le rôle de la Cour constitutionnelle.
Alors,
de ce point de vue, ça ne crée aucun problème.
Alors, la question, comme je l'ai dit, c'est est-ce qu'un candidat d'un bord peut donc décider de soutenir, je dis un candidat, un élu d'un bord peut donc décider de soutenir un candidat qui n'est pas de son bord? Est-ce que vous, député de la mouvance, vous pourriez parrainer un candidat de l'opposition avec cet anonymat?
Tout à fait, parce que vous savez, l'élection présidentielle, c'est un jeu totalement ouvert et le candidat fait face à son peuple, ce qui n'est pas le cas pour les élections de liste, ce n'est pas le cas pour les communales, ce n'est pas le cas pour les législatives, où cette fois-ci, ce sont les partis qui, à travers une liste, proposent des candidats.
Alors,
dans le cadre de nos élections présidentielles, on n'est pas tenu d'émaner d'un parti politique tel que notre Constitution le dit.
Donc, mais vous, en tant qu'élu d'un parti politique, vous n'êtes pas indépendant. Pourquoi vous voteriez pour un candidat qui n'est pas celui de votre parti, de votre bord?
Mais je le ferai, et surtout dans le cas que vous indiquez là, où vous dites que les deux grands partis qui sont représentés au Parlement soutiennent le président en exercice. Nous allons faire tout doucement. À la date d'aujourd'hui, et j'espère très bien que le président de la République a dit qu'il a pris sa décision et qu'il va bien annoncer au peuple.
Il ne vous l'a pas annoncé à vous en tant qu'allié. C'est vrai que le grand public ne connaît pas sa décision, mais vous qui êtes son allié, peut-être que vous avez l'information.
Non, même si je l'avais, il ne m'appartient pas de le dire. Il a dit qu'il trouvera l'occasion et le timing nécessaire pour dire sa décision. Il a dit à l'opinion internationale qu'il a déjà pris sa décision. Nous espérons que le président de la République, dans les délais qui viennent, trouvera le timing adéquat pour annoncer sa décision. Ce qui est entendu et sollicité ici, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui souhaitent et qui suscitent même la candidature du chef de l'État, dont moi, mais nous nous attendons. Alors, à supposer qu'on ferme un peu les yeux, parce que quand on pose le débat sur le parrainage, on ne l'aborde qu'à travers le prisme des prochaines présidentielles et par rapport à la candidature de M. Patrice Talon. À supposer que donc M. Patrice Talon ne soit pas candidat. Donc, ça veut dire que...
ce qui est très improbable, soit dit en passant.
Voilà. Non, mais au-delà des hommes, je veux parler des tests d'abord, parce que tel que la question est souvent posée, c'est comme si nous avons pris des tests qui ne valent pas la peine. Par rapport à la langue, la consolidation de la démocratie au Bénin, pour limiter les candidatures fantaisistes et autres, nous avons estimé, et ça ne date pas de Patrice Talon depuis toujours, qu'il fallait faire quelque chose pour limiter les candidatures fantaisistes. Et c'est ce que nous avons fait.
Alors,
il se fait vraiment de façon conjoncturelle, et je l'avoue, qu'aujourd'hui, il y a les deux partis représentés à l'Assemblée nationale soutiennent le président de la République. Et ça préoccupe nos concitoyens, ça préoccupe l'opinion.
Oui.
Et je vous confirme
que
le jeu sera totalement, ce qui est légitime, mais le jeu sera totalement ouvert, au nom simplement de l'expression démocratique, nous avons même intérêt à ce que le jeu soit le plus ouvert possible.
Alors, comment le jeu peut être ouvert? Comment l'élection peut être inclusive quand elle est soumise à ce parrainage qui est considéré comme un verrou et que les deux partis, vous l'avez dit encore, soutiennent le président sortant qui pourrait se représenter?
Déjà, il faut situer les responsabilités par rapport à ça. Nous sommes en train de poser, de débattre de cette question parce que certains acteurs politiques n'ont pas mesuré l'enjeu au moment où il fallait. Vous savez que nous avons pris ce texte-là avant l'organisation des dernières communales au Bénin. Et les élections communales étaient totalement ouvertes. Tous les partis se réclament d'être d'envergure nationale et ce texte-là existait. Mais pendant ce temps, l'ancien président de la République, par exemple, a décidé de démissionner de son parti.
Mais il avait des raisons, il a évoqué ses raisons.
Mais
il avait ses
raisons. Mais aujourd'hui, on ne vient pas vraiment... Il savait que les enjeux étaient là. Donc, voilà un texte qui a voté. Et on sait bien que le parrainage était inscrit dans ce texte-là, était requis. On prend la décision donc de boycotter les élections, de tout faire pour que le parti dont on est membre n'ait pas le nombre de parrainages requis. Et puis après, bon, mais c'était une parenthèse. Pour dire que c'est à ce niveau qu'il faut d'abord situer les responsabilités.
Alors, les craintes aujourd'hui sont réelles. Je vous partage cette crainte émise par l'honorable Abdoulaye Gounou du Bloc républicain, qui lui estime qu'un parrainage anonyme va fragiliser le parti politique au détriment de l'élu.
Bon, je le comprends si nous positionnons par rapport aux élections de liste, c'est-à-dire les élections communales, les élections législatives. Ce qu'il dit politiquement, je le comprends. Mais du point de vue du droit, ce n'est pas compréhensible. Les textes que nous avons disent que le parrainage est libre. Et je vous dis qu'au nom de la démocratie, ce n'est pas nouveau, madame. Regardez en France. Mais le Front National, à travers Le Pen, que ce soit Père et tout, ont participé à des élections. Et le parrainage n'est pas...
Ils ont recueilli le parrainage d'autres partis, soit. Mais qu'est-ce qui garantit...
S'il vous plaît, ils ont eu le parrainage d'autres partis.
Justement.
Sans qu'il y ait ce tollé.
Vous voulez dire qu'un candidat, un élu de la mouvance aujourd'hui peut décider de soutenir quelqu'un d'autre que Patrice
Mais
Talon?
Mais au nom de la démocratie, ça doit se faire. Et je vous dis qu'au nom de moi qui suis ici, je suis prêt à parrainer un candidat de l'opposition. Je veux même qu'un candidat, par rapport aux réformes qui sont difficiles, certes, qui sont en cours et en vue au Bénin, qu'il y ait un candidat, je donne un exemple précis, au Bénin, dans le secteur de la santé et tout, par le passé, il y avait beaucoup de désordre. Donc les fonctionnaires pouvaient entrer en grève comme ils voulaient. Nous avons encadré le droit de grève tel que la Constitution...
Avec beaucoup de remous.
Mais on ne peut pas faire des réformes sans remous. Aujourd'hui, demandez aux populations si les populations ne sont pas contentes de cela. C'est cela. Nous avons des défis de développement en Afrique.
Alors,
vous avez suivi le président de la République au Bénin. Donc ce n'est pas nouveau.
Alors, vous souhaitez qu'il y ait concurrence.
J'ai un parrainage à donner, mais moi, je suis demandeur pour donner mon parrainage à un candidat de l'opposition.
Monsieur Aladati, est-ce que ce n'est pas juste un discours politique? Vous êtes plutôt satisfait du bilan de Patrice Talon, puisque vous dites que vous voulez qu'il se représente.
Pourquoi vous soutiendrez quelqu'un d'autre? Je comprends très bien votre question, mais donner son parrainage ne veut pas dire soutenir. Je donnerai mon parrainage pour permettre l'expression plurielle, mais ça ne veut pas dire que dès que j'ai donné mon parrainage, je soutiens. Il faut que cette clarification soit faite. Je permets le parrainage, je donne mon parrainage pour permettre la pluralité, pour permettre au jeu démocratique de s'exprimer.
Mais vous battez campagne pour un autre candidat.
Mais madame, vous n'allez pas vous imaginer que qu'en ce siècle, qu'on ait un seul candidat à la présidence de la République au Bénin. Je ne crois pas que vous pensez à ça.
Nous allons permettre à mes confrères de rejoindre le débat avec nous. Denis, vous avez suivi le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Les craintes émises par certains acteurs politiques, c'est que cet anonymat, ce parrainage anonyme manque de transparence, en fait, qu'il y ait un manque de transparence dans le processus. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je crois que le Bénin est présenté à tort comme le modèle démocratique africain. Parce qu'un tel modèle satisfait les intérêts.
À tort, vous dites.
C'est à tort. Parce que nous avons, moi, je connais le Bénin pour y avoir été longtemps quand j'étais étudiant au Nigeria. Et au début des années 90, il y a eu quand même ce type d'espoir-là, avec une démocratie ou un semblant de démocratie inclusive. Mais chaque jour, dans les médias internationaux, nous apprenons seulement qu'il y a l'évolution de la loi au Bénin. Donc, comme dans la plupart des démocraties tropicales, appelons ça comme ça, on évolue sur la loi chaque jour. Ça change. Alors, ben, sur le fait du parrainage, je crois que l'invité a parfaitement raison lorsqu'il dit que ceux qui ont refusé d'aller aux élections locales, je veux dire aux municipales, ont raté quand même l'occasion de se mesurer au rapport de force. Ça, il faut le dire. La politique politicienne, c'est quelque chose d'assez terrible. Et on a des gens qui tiennent des discours après tout. Donc, l'élection municipale avait donné l'occasion à tous les partis politiques, à défaut de gagner l'élection, mais d'avoir au moins le vivier nécessaire pour avoir les parrainages.
Mais Denis, aujourd'hui, il n'y a pas que les acteurs politiques de l'opposition qui se plaignent encore du parrainage. Il y a également la société civile qui est très inquiète.
Parce qu'elle n'est pas une société civile. La société civile ne peut pas s'inquiéter du fait qu'il y ait les parrainages. La société civile n'est pas société civile au profit, n'est-ce pas, de l'opposition, au profit du pouvoir. Quand vous êtes société civile, c'est le contraire, ou c'est un observateur par rapport à la société politique. Donc, la société civile qui donne de la voix au profit de l'opposition cesse d'être société civile pour devenir un acteur, un protagoniste de la scène politique.
Donc pour vous, ces craintes ne sont pas légitimes.
En politique, vous savez, nos craintes ne comptent que pour de simples opinions. En politique, il y a les acteurs politiques, il y a les observateurs politiques. Donc, l'élection met sur la balance des partis politiques ou des courants politiques ou des hommes politiques. Et lorsque vous voulez donner une opinion sur l'évolution politique ou la situation politique d'un pays, vous cessez d'être un personnage relativement neutre. Vous êtes là, vous êtes dans l'arène. Moi, j'observe, je dis qu'on a les parrainages, comme l'invité dit, les parrainages n'ont pas été inventés après les élections locales. Donc, avant les élections locales, tout le monde savait qu'on aurait besoin de tels parrainages pour se présenter à l'élection présidentielle. Donc, si vous n'êtes pas aux élections municipales ou législatives, vous n'allez pas quand même espérer aussi facilement, n'est-ce pas, vous n'allez pas critiquer le principe parrainage parce que vous ne vous êtes pas donné les moyens d'établir le rapport de force. Mmh. Autre chose, le parrainage, effectivement, ne signifie pas soutien. Parrainage voulait dire que vous êtes candidat à une élection présidentielle, vous voulez avoir le mandat, un mandat suprême dans votre pays, et vous, à défaut d'avoir le parrainage des citoyens, vous avez le parrainage de représentants des citoyens. Mmh. Les représentants des citoyens. Ça s'est fait dans les autres pays, sauf que lorsqu'on n'est pas dans une vraie démocratie, il y aura toujours des remous. La démocratie, c'est aussi le consensus. Par contre, là, on peut le dire, lorsque les acteurs politiques ne s'asseyent pas pour s'entendre sur les règles du jeu, il y a un problème. La démocratie des vainqueurs ou la démocratie des forts va toujours créer des problèmes sociaux. Le Bénin...
Alors, Denis, on va marquer une petite pause qui s'impose à nous et on revient après pour parler. Justement, vous l'avez évoqué, le consensus demandé par l'autre bord des acteurs politiques.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, qui a comme grand témoin aujourd'hui Ordène Aladati, député à l'Assemblée nationale du Bénin et également président de la commission des lois. Nous avons également depuis Douala notre confrère Denis Kouebo, journaliste, analyste politique camerounais, et César Etou, directeur de publication du quotidien La Voix Originale. Il est à Abidjan. César, je vais vous donner la parole justement sur ce premier sujet concernant le parrainage des candidats à la présidence et à la vice-présidence au Bénin. Est-ce que, comme Denis, vous pensez que le jeu est déjà fait vu que l'opposition a refusé de participer aux législatives et aux communales qui auraient pu lui permettre donc d'avoir des élus et de pouvoir parrainer les candidats de leur choix?
Oh, je ne voudrais pas choquer, n'est-ce pas, les citoyens béninois et les démocrates béninois ou les journalistes béninois, mais je pense que le jeu est déjà faussé. Premièrement, je suis très content d'entendre le président de la commission des lois au Parlement béninois en train de dire que lui, il est prêt à parrainer un candidat de l'opposition. Mais ils sont combien à penser comme ça? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans une Afrique, avec nos traditions et tout ça, monsieur le président de la commission des lois au Parlement du Bénin est en train de nous dire qu'une femme doit compter sur le foyer de sa rivale pour nourrir ses propres enfants. Vous savez que ça, c'est pas possible. Ah oui, est-ce que vous m'avez compris?
Oui, je vois un peu l'image, je vois la représentation, oui, je vois.
Une femme doit compter, dans un foyer polygame, une femme doit compter sur la bonne foi de sa rivale pour nourrir ses propres enfants.
Alors, on va demander à M. Aladati si cette allusion, il la comprend. M. Aladati?
Oui, merci, ça m'amuse beaucoup. Je voudrais féliciter un peu les débatteurs pour leur clarté, hein, parce que quand on aborde les questions de la démocratie en Afrique, parce qu'on va sur le postulat que tout est mauvais. Donc, je voudrais que l'on puisse penser nos plaies. Il y a très longtemps que les candidatures fantaisistes, le biais démocratique dans lequel nous étions au Bénin, était un frein au développement de ce pays. Et avant Patrice Talon, tout le monde a pensé qu'il fallait réformer ce système-là. Maintenant, quand on va sur le terrain de la réforme, c'est quel contenu on met. Pour venir à votre question, il ne s'agit pas de ça. Moi, je dis, je permets juste la compétition, mais ça ne veut pas dire que celui à qui je vais donner le parrainage, je le soutiens. Mais pas du tout. C'est-à-dire que le candidat qui sera désigné par mon parti, c'est avec ce candidat-là que je battrai campagne. Mais je permettrai à la compétition d'avoir lieu.
César, est-ce que c'est plus clair?
Alors, en tout cas, chez nous, en Côte d'Ivoire, un élu sous la bannière d'un parti politique qui s'en va parrainer un autre élu qui n'est pas de sa bannière politique est traité de traître. Au Bénin, comment vous résolvez ce problème-là?
Ce que vous dites rejoint un peu cette crainte de certains acteurs politiques qui disent justement que ça remet en cause la loyauté de l'élu rapport à sa formation politique. On va avancer. Alors, on va avancer un peu sur le débat. Monsieur Aladati, le fait que ce parrainage puisse réduire le nombre potentiel de candidats à la prochaine présidentielle. Vous voulez qu'on aille au-delà de la présidentielle, mais il se trouve que c'est l'échéance qui est la plus proche de nous. Le fait qu'on aura moins de candidats, est-ce que ça ne fait pas écho à cette crainte que les gens ont que la démocratie est au Bénin en recul?
La démocratie n'est pas de l'anarchie. Nous avons perçu depuis les années 90 la démocratie comme étant de l'anarchie. C'est pourquoi nous n'avançons pas.
Pourquoi vous parlez de 90? Vous avez l'âge d'or de la démocratie béninoise pour certains, justement, c'est
exactement,
après 90.
L'âge d'or de la démocratie, mais nous avons décrété une démocratie sans limite. C'est très bien de le faire comme ça. Mais après 30 ans d'expérience démocratique, il faut faire le bilan, il faut faire le point. Où en est le Bénin en matière d'efficacité, en matière de développement? Où en est le Bénin quand les populations n'ont pas de l'eau à boire? Mais cette démocratie dont on a parlé, elle a été galvaudée. L'argent était le maître du jeu.
Et le parrainage des candidats, moins de candidats au scrutin présidentiel,
ça permet de faire de l'économie. Parce que vous savez, les gens qui viennent et qui se disent candidats, sans remplir les conditions, sans avoir l'étoffe de nous gouverner, il faut faire les bulletins de vote à l'effigie de toutes ces personnes-là. Il fallait assainir et crédibiliser le processus électoral, et ça va de soi.
Alors,
je vous dis que ce besoin-là n'a pas été exprimé aujourd'hui, ça n'a pas été exprimé avec l'avènement du président Patrice Talon. Je vais vous donner des têtes de file de l'opposition aujourd'hui. Et il y a des discours qui sont projetés aujourd'hui, qui sont des discours qu'ils tenaient pendant qu'ils étaient à l'opposition face au président Yahya Boni, qui ont prédit la même chose, qui disent exactement le contraire aujourd'hui. Alors, donc c'est pour le pays que nous travaillons. Nous ne travaillons pas pour le président Patrice Talon.
Le directeur général de ce programme dont le Bénin bénéficie, on va dire en grande partie, je parle du Millennium Challenge Corporation, est en visite cette semaine au Bénin. Il a parler, comme s'il y avait des craintes également du côté de ce programme-là en ce qui concerne la vitalité de la démocratie au Bénin. Est-ce que vous avez suivi ces propos et comment vous les avez accueillis?
Oui, je vous comprends que je comprends les craintes. De l'extérieur, quand on observe, quand on projette violemment que au Bénin, les partis d'opposition ont été empêchés, et sans aller dans le contexte des réformes que nous sommes en train de faire pour la prospérité de notre pays, je peux comprendre. Mais ils auront le temps de voir et d'apprécier que la démocratie béninoise s'est enracinée et devient plus efficace. C'est de ça qu'il est question. Donc, on ne perd rien à attendre. Ils verront que nous sommes en train de régler les problèmes qui nous ont toujours arriérés. Et je vous dis, et je prends l'opinion internationale à témoin pour dire, dans les deux années à venir, l'école qu'a constituée le Bénin en matière de précurseur des conférences nationales au Bénin, les gens viendront visiter et s'interroger sur le processus du Bénin et peut-être de s'en inspirer.
Je vous souhaite d'arriver à convaincre des personnalités comme mon confrère Denis Kouibo. Ordène Aladati.
Vous êtes déjà convaincu, moi j'ai suivi ses propos. Et Denis Kouibo, vous... il est très convaincu.
Alors, on va lui donner quelques secondes pour répondre. Denis, est-ce que vous êtes convaincu par cet optimisme de M. Aladati?
Bon, c'est un optimisme qui ne devrait pas être entièrement partagé, mais si on s'en tenait à sa position personnelle, il n'y aurait pas de problème. Je parlais des tentatives de la démocratie. Si les acteurs politiques béninois travaillent au consensus, aucun problème ne se poserait en ce qui concerne les parrainages. Parce que tout à l'heure, j'ai une position assez mitigée là-dessus, en disant que, en soutenant que les partis politiques, s'ils n'étaient pas dans la politique, la politique politicienne essentiellement, ils auraient travaillé le rapport de force dès la tenue des élections communales et législatives. Ils ne l'ont pas fait. Et on a des candidatures fantaisistes, notamment au Cameroun. Vous avez 23 candidats, 25 candidats ou 40 à une élection présidentielle. Si on est en démocratie, effectivement, on pourrait trouver un module pour que n'aille à l'élection nationale que ceux qui ont soit une représentation locale ou un parrainage local. Ça a tout son sens en démocratie.
En démocratie.
Maintenant, est-ce que les règles du jeu sont suffisamment travaillées? Est-ce que le consensus est visible au Bénin? Là, réside le débat.
Et nous pourrons revenir sur ce débat vu que la présidentielle béninoise est prévue en 2021. Merci beaucoup, messieurs. Nous passons au deuxième sujet.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
En Côte d'Ivoire, la présidentielle se fera-t-elle avec ou sans l'opposition? Pascal Afinguessan et Henri Conan Bédier ont lancé la phase 2 de la désobéissance civile, appelant leurs militants à empêcher le convoyage et la distribution du matériel électoral, empêcher les meetings et la distribution des cartes électorales. Les deux candidats de l'opposition maintiennent toutefois leur candidature et ils ne voient pas d'incohérence dans cette stratégie. Pendant ce temps, la campagne électorale a officiellement été lancée. Le candidat Alassane Ouattara, lui, s'y est engagé. César, les candidats de l'opposition ont donc bien détaillé cette fois-ci cette phase 2 de la désobéissance civile. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, ces actions?
Alors, la phase 2 de la désobéissance civile annoncée par les candidats vient d'être adoptée par toutes les plateformes de l'opposition ivoirienne réunies ce jour, du vendredi 16, depuis 9h. Toutes les plateformes de l'opposition ivoirienne viennent donc d'adopter cette mesure. Ce que cela inspire, c'est que la Côte d'Ivoire va tout droit dans le mur. Et ça, les tenants du parti au pouvoir le savent. Aujourd'hui, à l'heure où
Mais l'opposition également le sait.
Oui, l'opposition le sait. Mais l'opposition n'a pas le choix. C'est-à-dire que les conditions d'organisation d'une élection crédible, juste et transparent ne sont pas réunis. Le parti au pouvoir sait. À l'heure où je vous parle, à l'intérieur du pays, dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, les tracts électoraux qui sont en train d'être distribués depuis le mercredi sont donc enlevés, brûlés, jetés.
Par les militants de l'opposition, vous voulez dire?
Par les militants de l'opposition, par les populations.
Alors, les deux candidats de l'opposition disent qu'ils appellent à des actions pour empêcher la tenue du scrutin, mais pas à la violence. Or, dans ce que vous dites, justement, il y a de la violence.
Oui.
Comment mener ces actions de désobéissance civile sans tomber dans la violence?
Pour l'instant, il n'y a pas de bâtiment brûlé. Il n'y a pas de personnes blessées. Mais le matériel est parti. Donc, dans chaque localité, chacun est aujourd'hui en train d'imaginer ce qu'il doit imaginer pour pouvoir empêcher que la distribution de ces cartes électorales se fasse. Moi, ce que je vous dis, c'est que la situation est très inquiétante en Côte d'Ivoire, elle est très dangereuse, elle est très volatile.
Je voudrais plutôt qu'on parle de cette stratégie des candidats de l'opposition. Est-ce que vous comprenez le fait qu'ils appellent au boycott, mais qu'ils restent candidats dans le scrutin?
Oui, parce que les candidats rejetés ou acceptés n'ont pas envie de boycotter l'élection présidentielle. Tous veulent participer à l'élection, mais pas dans les conditions actuelles. Leur problème, c'est de réunir toute la classe politique, discuter pour avoir des conditions consensuelles. Peut-être à l'extérieur, les gens attendent qu'on dise, bon, les candidats veulent boycotter, mais ce n'est pas ça qui est à l'ordre du jour ici. On ne boycotte pas l'élection présidentielle. C'est les conditions qu'on ne veut pas accepter. Les conditions, c'est quoi? La Cour constitutionnelle a rendu une décision que personne ne veut accepter ici.
Alors,
parce que cette décision a été...
Oh, oui, l'opposition qui conteste donc le rejet des 40 autres candidatures et également la candidature de Alassane Ouattara pour un troisième mandat.
Pour un troisième mandat. Lui-même a fait voter.
Alors, on ne va pas revenir, César, on ne va pas revenir en arrière vu qu'on sait quelles sont les revendications de l'opposition pour ce scrutin. Denis Kwebo, est-ce qu'il y a moyen d'appliquer cette phase 2 de la désobéissance civile sans tomber dans la violence?
Alors, on dit généralement que la violence est une production de la société. Donc, ce n'est pas les hommes qui sont violents, c'est la société elle-même qui est violente. On peut provoquer des situations violentes sans en donner l'impression. Lorsqu'on rejette systématiquement des candidatures à une élection présidentielle, lorsqu'on a une communauté internationale fantoche, il faut bien dire fantoche, qui s'active lorsqu'il s'agit de la Guinée Conakry ou lorsqu'il s'agit du Mali, et ferme les yeux devant une forfaiture comme ce qui se produit actuellement en Côte d'Ivoire et qui s'est d'abord produit à travers l'enlèvement d'un chef d'État de son palais par les forces extérieures. Vous voulez que ça donne quoi? Tout à l'heure, on a parlé du Bénin avec le consensus. La politique, la démocratie, c'est le consensus. La démocratie n'est pas une occasion pour quelqu'un qui serait omnipuissant d'imposer sa loi aux autres. Alors, M. Alassane Ouattara gagnerait, n'est-ce pas, à passer lors d'une élection qui est courue, lors d'une élection qui est apaisée. Parce que lorsque l'élection n'est pas apaisée, lorsque les conditions ne sont pas équitables, même votre victoire réelle sera contestée de fait. Je crois que beaucoup, les hommes politiques africains ne supportent pas la démocratie. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui ont dit qu'on n'était pas mieux à la démocratie, mais on a rarement vu des démocrates en Afrique, hein, dans tous nos pays. Dans mon pays, le Cameroun, j'ai rarement vu rencontrer des démocrates dans la rue. Rarement. J'ai entendu mon confrère ivoirien mettre les gens en garde. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il n'y ait pas la paix en Côte d'Ivoire. Cette élection se passe comme elle va se passer. C'est maintenant que on peut stopper M. Alassane Ouattara.
Alors,
on peut lui dire qu'une personne, un homme ne prend pas un pays en otage au nom du soi-disant bilan. Quel bilan?
Il y a forcément un bilan. Il a gouverné, il a un bilan sur lequel s'appuyer.
Tout dirigeant a un bilan.
Ben oui, il a son bilan. Maintenant, l'interprétation de son bilan peut dépendre d'un bord ou de l'autre. Je comprends que...
On ne peut pas mettre en avant, quand vous êtes élu pour 5 ans, c'est un mandat qu'on vous a donné. Ce n'est pas un cadeau que vous faites de remplir votre mission.
Mais justement, il remet son mandat en cause vu qu'il va aux élections maintenant.
Monsieur Alassane Ouattara a dit qu'il ne sera pas candidat. Il a dit lui-même qu'il ne sera pas candidat.
Alors, on va avancer, Denis. On ne peut pas revenir sur cette actualité ivoirienne. Je pense que nous la suivons. Nous savons les arguments d'un bord comme de l'autre. Ordène Aladati, une analyse, un commentaire sur la situation en Côte d'Ivoire. Mon confrère Denis s'inquiète de cette communauté internationale qui ne dit rien. devant cette situation?
Bon, on connaît la communauté internationale. Quand le Bénin veut réformer son système et tout, bon, ça préoccupe et tout. Dans la révision de la Constitution qui est intervenue au Bénin, qui est une loi prise par les députés soutenant tous presque l'action du chef de l'État en exercice, nous avons mis deux verrous essentiels de la Constitution. La Constitution qui était là qu'on a réformée disait qu'on ne peut pas faire plus de deux mandats au Bénin. Nous avons ajouté une expression que nul ne peut faire de sa vie plus de deux mandats. On a ajouté ça. Nous avons ajouté dans le préambule que cette constitution que nous sommes en train de réviser n'appelle pas une nouvelle république. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est parce que ce problème a été mal négocié. Parce que ce qui est mis devant du point de vue du droit aujourd'hui pour justifier la candidature d'Alassane Ouattara, c'est que la question de la nouvelle république n'a pas été suffisamment tranchée. Voilà la contradiction principale qui est en Côte d'Ivoire. On sait dans quelles conditions le président Gbagbo a été dégagé du pouvoir. Et le président qui vient, qui lui succède dans ces conditions, fait un mandat, un deuxième, et vient maintenant en jeu la question du troisième mandat. C'est la contradiction principale et qui, moi, j'estime un peu mal négociée en amont, qui nous amène un peu dans
Alors, sur le plan du droit, les arguments du camp Ouattara sont ceux que vous avez donc évoqués. Mais cette action de l'opposition, on a des candidats de l'opposition qui sont là, mais qui appellent au boycott, qui appellent à des actions pour empêcher la tenue de ce scrutin. Est-ce que c'est une stratégie que vous comprenez?
Non, je ne la comprends pas, parce que la contradiction principale, à mon avis, était donc la candidature du président Ouattara lui-même. Je pense qu'en déposant leur candidature et autres, ils ont consenti au jeu qui s'est ouvert. Et c'est en cela que ça me paraît un peu diffuse, un peu tout ce qui
un peu parle. Contradictoire. César, nous avons entendu M. Pascal Afinguessan qui disait qu'il n'y a pas d'incohérence dans cette stratégie. Qu'est-ce qui arrivera si la désobéissance civile ne porte pas les fruits que eux ils veulent?
Toutes les plateformes de l'opposition ivoirienne ont dit qu'ils vont battre campagne pour que les élections ne se passent pas. Donc, la campagne n'est ouverte que depuis hier. Nous allons avoir tous les opposants sur le terrain en train de battre campagne pour que les élections ne se déroulent pas.
Avec quoi comme objectif à la clé? Un faible taux de participation, parce que l'élection, jusqu'à preuve du contraire, est partie pour se tenir ce 31 octobre.
Bon, là, vous me demandez de lire dans une boule de cristal. Je n'ai pas encore cette capacité, mais tout ce que je sais, c'est que les opposants viennent de dire qu'ils vont battre campagne pour que l'élection ne se déroule pas. Est-ce que c'est une affaire de faible taux de participation ou de non-élection du tout? Donc, il faut attendre pour savoir ce qui va se passer. Moi, journaliste, ce que je crains, c'est que les conditions soient réunies pour que les Ivoiriens aillent encore à l'affrontement parce que le pouvoir refuse le dialogue. Ça, c'est un constat et tout le monde le voit.
Merci beaucoup, César, pour cette analyse. Nous passons au troisième sujet.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Et tout est parti de la toile. Des jeunes Nigérians ont appelé à manifester contre des brutalités policières. Plus d'une semaine après le début du mouvement, ils continuent, en dépit de la dissolution de l'unité de police, accusés d'exactions sur la population et surtout en dépit de la promesse faite par le président nigérian Muhammadu Buhari d'initier des réformes. Monsieur, je vous propose de suivre quelques autres précisions apportées par notre collègue du bureau BBC au Nigeria, Mayenin Jones. On l'écoute et on revient.
C'est pas la première fois qu'il y a eu des manifestations contre l'escouade spéciale de lutte contre le vol, qu'on appelle SARS ici. Il y a eu plusieurs manifestations par le passé, mais c'était plutôt limité à l'internet, les réseaux sociaux. Cette fois-ci, les jeunes manifestants se sont déplacés sur les routes des plus grandes villes du Nigeria, comme Lagos, comme Abuja, mais aussi dans de plus petites villes comme Port-Harcourt, dans le sud-est du pays. Et ce qui est différent cette fois-ci, c'est qu'ils se sont organisés d'une manière qui n'a jamais été vue auparavant. Ils ont utilisé les réseaux sociaux pour rassembler un grand nombre de jeunes à chacune de ces manifestations, pour aussi pour s'organiser, organiser des volontaires, par exemple, pour aider ceux qui sont arrêtés par la police.
Maïdi Jones, donc, de BBC à Lagos. Denis Kouébro, selon vous, jusqu'où peuvent aller ces manifestations qui persistent?
Il faut savoir que le Nigeria a une longue tradition démocratique. Et généralement, ce n'est pas à la rue que beaucoup de changements interviennent. Le pays a également cette longue tradition d'insécurité. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de se battre pour le démantèlement de la fameuse unité spéciale de police qui s'est révélée comme étant spécialiste de violations flagrantes des droits de l'homme. C'est en réalité tout le système sécuritaire nigérien qui est visé, même si les manifestants ne le disent pas. Les Nigériens n'ont pas l'impression que depuis le retour au régime civil, le citoyen est considéré comme... Que dans le monde, on n'a pas la Côte d'Ivoire, on parle du Bénin. Chez les anglo-saxons, ce n'est pas exactement cela. Les libertés individuelles sont au-dessus de tout. Et les régimes successifs depuis le retour à la juridique des civils au pouvoir n'ont pas réellement permis la libre expression des Nigérians. Et le prétexte est vite trouvé aujourd'hui pour remettre en question l'establishment politique du pays. Je crois que les autorités l'ont très bien compris
et les autorités ont fait des promesses. Le président Buhari a donc promis ces réformes dans la police, mais de plus en plus, on entend d'autres revendications de ces manifestants.
Bien sûr, parce que c'est pas juste que moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ce pays-là et c'est comme ça que ça commence au Nigeria. Avec la tradition de lutte qu'ils ont, ils trouvent le bon prétexte. Et c'est un prétexte fédérateur. La violence policière était devenue le train quotidien des populations et ils en profitent pour mettre la pression sur le pouvoir politique. Vous allez voir que la situation du pays va évoluer assez rapidement avec ces manifestations-là. Parce que le pouvoir politique qui comprend bien l'expression de la rue au Nigeria sera obligé de céder sur un certain nombre de points, notamment les libertés individuelles, au-delà de la violence politique. Il y a beaucoup de potentats au Nigeria, notamment au sud-est, au sud-ouest, au nord, des potentats, des manias de l'économie qui vivent, n'est-ce pas, d'une grande rente et qui rend la pauvreté s'accroît de plus en plus au Nigeria avec l'émergence de nouveaux riches. La défiance actuelle, parce qu'il s'agit de ça, c'est la société civile organise la défiance pour s'attaquer à l'establishment politico-économique du pays, les barons qui contrôlent l'économie, qui aujourd'hui contrôlent l'insécurité. Les violences policières généralement tiennent au parti de pouvoir détenu par des potentats sud-ouest, au sud-est et au nord.
C'est donc une révolution plus globale qui est en cours, selon vous, au Nigeria. Et ramenons dans le contexte des pays francophones, la brutalité policière, c'est également une réalité dans certains pays francophones. Est-ce que, selon vous, le cas du Nigeria pourrait faire tache d'huile?
Le cas du Nigeria pourrait éventuellement faire tache d'huile dans les sociétés organisées. Si vous prenez la plupart des pays anglo-saxons, les pays ont un fort taux de syndicalisation. Si vous allez en Zambie, vous allez voir que tous les banquiers sont sous un syndicat, tous les agriculteurs, les éleveurs sont sous un syndicat, toutes les corporations du pays sont regroupées sous un syndicat. Parce qu'au Nigeria, vous avez le Nigerian Labour Congress. Et contrairement au Cameroun, nous avons 13 centrales syndicales. Il n'est pas possible d'engager un mouvement de revendication dans la rue et prospérer facilement parce que cette phagocytose du mouvement social-là ne permet pas, n'est-ce pas, qu'il se mette en branle.
Mais au Nigeria, c'est parti de la toile, c'est parti des individus. Ce n'est pas une organisation donnée qui a initié le mouvement.
On appelle ça le piquet. C'est parti de la toile, mais ce n'est pas dans la toile que ça se tient. Dans la rue, il y a effectivement à ce moment-là. Et le mouvement va aller crescendo. C'est-à-dire que pour l'instant, les activistes ont donné de la voix sur le net. Dans les rues, on sent déjà le mouvement. Mais vous allez voir que la position du Nadia Labour Congress sera déterminante pour la suite. C'est le congrès du travail qui, si son entrée en jeu ou non, va déterminer la suite des événements. Et plus l'opinion est forte, plus le congrès du travail sera obligé de se prononcer. Ça, ce sera le cas dans la plupart des pays anglo-saxons. Vous avez le Zimbabwe, ils sont très forts en syndicat.
Mais pas dans les pays francophones, selon vous.
Dans les pays francophones, c'est tellement clivant. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, vous savez à quoi ça renvoie. Le Bénin a réussi, et même comme nous parlions tout à l'heure de démocratie européenne, ils ont quand même réussi une transition qui fait qu'on est au pouvoir, quelqu'un qui a été presque plébiscité. Je parle de M. Talon. On a vu comment il est arrivé au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir, il n'était pas clivant, ce n'était pas un homme politique. Une société qui parvient à mettre à sa tête un homme qui n'est pas un homme politique peut, n'est-ce pas, ne pas connaître, expérimenter un certain nombre un certain type de revendications. Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée, c'est les clivages. Vous avez eu deux candidats qui sont revenus en Guinée, celui d'Alo avec Condé. Pendant 20 ans, on ne parlera que d'eux. En Côte d'Ivoire, on connaît à peu près quatre hommes politiques de renom. On connaît Babo, on connaît Soro, on connaît Ouattara et Bédié. Au Cameroun, c'est le même clivage. On va vous citer trois hommes.
Le clivage empêche donc qu'il y ait une synergie d'action spontanée comme ça, comme c'est le cas au Nigeria. Merci beaucoup, Denis, pour votre analyse. César, est-ce que vous avez une petite analyse, un commentaire sur cette actualité nigériane?
Alors, première chose à retenir, c'est que dans nos pays, quand une crise naît et que vous ne la traitez pas à temps, elle vous déborde. C'est ce qui se passe au Nigeria. On a créé une police spéciale pour lutter contre le vol. Et cette police a commis des actes certainement un peu plus graves que les vols que les populations étaient en train de décrier. Est-ce qu'au départ, au moment où les populations se plaignaient, est-ce que le pouvoir nigérian a essayé de résoudre le problème? Ça, on n'en sait rien. Aujourd'hui,
comme Maheni l'a dit dans son intervention, c'est la énième manifestation en fait contre cette unité de police.
N'est-ce pas? Donc il aurait fallu réagir très vite pour régler le problème. Mais il faut aller au-delà. Est-ce que cette police spéciale qui a été créée, les hommes qu'on a placés dans cette police-là sont au-dessus de tout soupçon? Parce qu'en fait, il y a un confrère qui a dit que c'est la société elle-même qui est violente. Et c'est là qu'on est en train de remarquer que peut-être même que les policiers qu'on a déversés, n'est-ce pas, dans cette police spéciale, étaient plus démunis que les voleurs.
Je pense que cela fait partie également des revendications des manifestants qui demandent qu'il n'y ait plus d'impunité, justement. Merci beaucoup, César et tout. Nous allons passer aux réactions des auditeurs. Monsieur Aladati, quelques questions vous seront posées et nous vous demanderons d'y répondre après.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Bénin Chamvoedo Daniel estime que le parrainage ne pose aucun problème car tout est détaillé dans le code électoral. Pour lui, l'opposition sait à quel jeu elle joue. Jean Zounon lui suggère que ce soit les électeurs inscrits sur la liste électorale qui parrainent les candidats en lieu et place des députés et des maires. De son côté, Sangaré Albert appelle le président Patrice Talon à mettre l'intérêt du Bénin au-dessus de ses propres intérêts. Car si ses prédécesseurs avaient créé de telles conditions, lui-même n'aurait pas pu accéder au pouvoir. Sur la question de la Côte d'Ivoire, notre internaute d'Abidjan affirme que l'opposition ivoirienne a intérêt à boycotter les élections présidentielles du 31 octobre 2020, car si elle n'est pas toujours écoutée par le pouvoir en place, ce n'est pas dans les urnes que sa victoire sera reconnue. Violence policière au Nigeria, Charles Bazema estime que le rôle de la police est de protéger et non de brimer. Pour lui, les auteurs de violences policières doivent écoper d'une sanction exemplaire. Merci à Bala Kamara pour sa fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Didier Ladislas Lando, merci beaucoup. Continuez donc à réagir réagir sur nos différents comptes sur les médias sociaux. Monsieur Aladati, pas de questions, mais cet auditeur qui a évoqué le fait qu'on pourrait plutôt permettre aux électeurs inscrits sur les listes électorales de parrainer au lieu que ce soit les élus. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, c'est une modalité, mais cette modalité n'a pas été retenue dans nos textes. Ce qui a été retenu, c'est ce que soient des élus qui parrainent. Donc, appliquons ces textes. Et puis demain, peut-être, on verra bien que serait opportun que ce soit des électeurs. Je n'épouse pas ce point de vue, mais ce qui est fondamental à savoir, nous devons faire les choses selon ce qu'indiquent nos dispositions légales. Et pour l'instant, il s'agit de députés et de maires. Par rapport à ce qui est dit sur le président de la République, il faut dire, mais le président de la République, nous faisons les choses pour l'avenir. Hein. Il se fait qu'aujourd'hui, le débat se cristallise sur Patrice Talon. Mais quand vous analysez très bien ce qui se passe au Bénin, c'est demain que nous allons récolter les fruits des réformes que nous sommes en train de faire aujourd'hui.
Alors...
Nous sommes convaincus que nous travaillons pour les populations et pour l'Afrique. Pour l'Afrique.
Nous allons donc... Merci beaucoup, M. Aladati. Ordène Aladati, député à l'Assemblée nationale du Bénin. Vous êtes également président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup pour votre participation à ce débat.
Merci beaucoup.
Merci également à vous, Denis Kwebo, journaliste et analyste politique camerounais. Bonne journée à Douala, Denis.
Merci beaucoup à vous.
Et merci à César et tout, directeur de publication du quotidien La Voix, qui intervenait depuis Abidjan. La production de cette émission, bien sûr, Didier Ladislas Lando, mise en onde Oumar Diallo. Merci à tous de votre fidélité au débat et bonne suite de programme sur BBC Afrique et Africa Radio.
Vous écoutez BBC Afrique. Retrouvez-nous sur Internet, sur bbcafrique.com. Commentez l'actualité sur notre fil Twitter et sur notre page Facebook.
BBC Afrique est avec vous partout sur le continent.
Kigali, 93.9 FM.
Douala, 101.3 FM.
Lomé, 97.5 FM.
N'Djamena, 90.6 FM.
Cotonou, 101.7 FM.
Vivez l'actualité sur BBC Afrique.